Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, à qui irions-nous d'autre? Tu es le seul espoir. Tu es le seul espoir pour un monde qui se détruit lui-même, pour un monde où il n'y a plus d'espoir. La sagesse des hommes est insuffisante. Seigneur, il décide. Seigneur, il pense pouvoir lutter, pouvoir rétablir, pouvoir aider et secourir. Mais ce n'est que chaos. Leur sagesse ne suffit pas. Il faut le prince de la paix. Il faut le prince de la paix. Combien de fois nos cœurs sont attristés au-dedans de nous. Seigneur, de voir ce sang qui se répand pour rien. Des innocents qui meurent pour rien. D'autres sans espoir qui donnent leur vie et qui se font exploser. Mon Dieu, pourquoi? Pourquoi une telle folie au milieu de ce monde? Alors que tu es un Dieu d'amour. Alors que jamais tu n'as demandé de telles actions. Seigneur, pour imposer, quel que ce soit l'idéal de quelques-uns, ô Dieu, nous ne savons à qui d'autre aller si ce n'est qu'à toi. Seigneur, nous sommes heureux. Tu nous fais du bien ce matin. Déjà, Seigneur, par ces cantiques et ces prières, Seigneur, nos âmes s'abreuvent aux sources de la vie. Seigneur, ô mon Dieu, nous voudrions pouvoir rester là, Seigneur, et ne plus quitter. Ta présence est ce que nous désirons le plus. Ta présence, Seigneur, dans ce monde de chaos, sans espoir, et pourtant, il y a un espoir pour celui qui regarde à toi. Ô mon Dieu, nous regardons à toi, d'où vient notre secours. Levez vos têtes, car votre délivrance approche. Ô Seigneur, c'est en haut que nous voulons regarder, et non pas en bas. En bas, il y a tout pour détruire la joie, l'espérance. Il y a tout pour détruire l'espoir. Il y a tout pour emporter le désespoir. Mais lorsque nous regardons en haut, nous voyons un Dieu qui règne dans la gloire. Un Dieu qui règne et qui tient le monde dans sa main. C'est lui qui aura le dernier mot. Oh, merci pour le privilège de pouvoir parler de toi. Mets ta parole dans la bouche de ton serviteur, au nom de Jésus. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Dieu cherche des hommes. Des hommes par qui il va amener une restauration. Nous voyons à travers la parole de Dieu combien de fois la restauration, soit d'une nation, soit d'une société, soit d'un royaume, quel qu'il soit, a été apportée par des hommes choisis de Dieu. Des hommes qui se tiennent à la brèche. Des hommes qui se tiennent à la brèche. Nous lisons dans le psaume 106, verset 23, il parle de les détruire, sauf Moïse, son élu, qui se tint sur la brèche devant lui pour détourner sa fureur et pour l'empêcher de les exterminer. La fureur de Dieu, avez-vous pensé à sa colère? Avez-vous pensé à sa fureur? Combien de fois nous l'avons dit ici? Dieu, notre Dieu, n'est pas un Dieu de l'impunité, mais il est le Dieu de la patience, de la grande patience et longanimité, lent à la colère, mais riche en bonté. Que de patience n'a-t-il pas eu pour le peuple d'Israël? Que de patience n'a-t-il pas eu pour l'humanité à travers toute son histoire? Et lorsqu'il y a eu un homme qui s'est tenu à la brèche, il a donné encore du temps. Il a donné encore du temps du temps pour la repentance. Car il ne se plaît pas à détruire, il ne se plaît pas à anéantir, mais il se plaît à pardonner, à sauver. Dans Ézéchiel chapitre 22, à partir verset 30, « Je cherche parmi eux un homme qui les protège par une clôture, qui se tienne sur la brèche devant moi en faveur du pays. Je cherche cet homme afin qu'il ne soit pas détruit. Mais ô tragédie, je n'en trouve point. Trouvera-t-il des hommes qui se tiendront à la brèche avant la destruction de notre pays? Avant les jours de la colère, trouvera-t-il des hommes qui se tiennent à la brèche et qui intercèdent? Ce n'est pas qu'on n'intercède pas dans notre République. Ce n'est pas qu'on ne prie pas dans notre République. On prie beaucoup pour soi-même. On prie beaucoup pour que les choses aillent mieux, pour retourner dans une prospérité matérielle. Et bien souvent, trop souvent, nos prières ne sont pas ces prières qui retiennent le bras de la colère de Dieu. Pas assez de larmes coulent des yeux, pas assez d'hommes et de femmes se frappent la poitrine pour crier à Dieu pour son pardon. Pas assez de prédicateurs ne pleurent en prêchant ce message, en appelant les masses à la repentance. Pas assez d'hommes et de femmes acceptent de se courber et de s'humilier devant Dieu. Trop d'hommes et de femmes cherchent à s'élever et à se qualifier de titres honorifiques de tout genre. Cherchent à s'élever au-dessus des autres en montrant leur excellence plutôt que de se courber dans la poussière, dans le sac et la cendre pour s'humilier pour la nation, pour s'humilier pour la faiblesse de l'Église. Pour s'humilier, nous avons besoin de nous briser devant le Dieu vivant. Je cherche un homme qui se tienne à la brèche, mais je n'en trouve point. Y en aura-t-il en cette génération? Y en aura-t-il qui vont se lever? Y en aura-t-il qui vont pleurer et crier pour la repentance et pour le retour à Dieu? Et crier pour que, depuis les chefs jusqu'aux plus humbles de la nation, chacun pleure dans la cendre, dans l'humiliation, pour revenir à son Créateur, pour revenir au Dieu puissant, car seul cela peut faire échapper notre nation à une destruction de laquelle il ne pourra se relever. Ô Dieu, viens, use de ta miséricorde envers nous. Car comme pour Gédéon, en son temps, nous sommes pillés par les Madianites, nous sommes pillés par les Amalekites, nous sommes pillés par les Bédouins de l'Orient. Plus rien ne marche, ce n'est que le désordre. Plus rien ne marche, car même ce que nous produisons nous passe entre les mains. Même ce que nous trouvons dans notre sol disparaît sans qu'il y ait de profit pour qui que ce soit. Disparaît sans qu'il y ait un investissement pour la nation. Disparaît sans qu'il y ait une valeur en retour pour le bienfait des masses. Riche, oui, mais riche plus pauvre que jamais. À cause des pillages de Madian et des Amalekites, à cause de la malhonnêteté, à cause de la fourberie et de la cupidité. Jusqu'à quand, oh Dieu, y aura-t-il un homme qui se tiendra à la brèche? Va-t-il susciter un homme droit, un homme juste, un homme revêtu de ton autorité qui rappellera à la nation qu'elle doit revenir à Dieu? Jusqu'où allons-nous aller? Où sera la limite? Où est la limite? Mon cœur est lourd. Je ne puis m'amuser, je ne puis rigoler, je ne puis plaisanter, je ne peux que pleurer. Car en lisant la parole de Dieu, je vois et je comprends ce que Dieu ressent. Je comprends ce que Dieu éprouve. Jusqu'à quand rechercheras-tu ta gloire Jusqu'à quand rechercheras-tu à te montrer que la chair disparaisse et qu'elle soit clouée au bois? Pas de place pour la chair dans le royaume des cieux. Pas de place pour l'orgueil dans le royaume des cieux. Pas de place pour la suffisance humaine. Pour le royaume des cieux. Que sommes-nous sans lui? Que sommes-nous sans son secours et son aide? Qu'un tas de poussière inutile, dont les années sont bien courtes, bien courtes. Nous croyons au Dieu de la restauration, mais pour que Dieu puisse restaurer, il doit trouver un homme. Il doit trouver des hommes. D'abord, il a commencé avec un homme, et à travers cet homme, avec 300 hommes. Rien de plus. Juges 6, verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, du clan d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous arrive-t-il? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et tu sauveras Israël de la main de Madian. » « N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Il répondit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël ? Voici que ma parenté est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Dieu intervient dans les affaires des hommes, d'accord. Mais comment est-ce que Dieu intervient dans les affaires des hommes? À travers un homme choisi par lui. En trouvera-t-il? Que de vantardise dans notre pays? Que d'orgueil dans notre pays? Nous aimons faire des phrases, nous aimons faire des colloques, nous aimons faire des conférences, nous aimons faire des séminaires. Et nous aimons démontrer notre savoir et nos connaissances. Mais quand allons-nous nous jeter dans la poussière en pleurant pour dire au Dieu, éloigne de nous Madian et Amalek. Éloigne de nous ces puissances sataniques que nous avons servies pendant tant d'années, que nos pères ont servi, tout cet occultisme, tout ce fétichisme, toutes ces puissances des ténèbres que nous avons manipulées, tout en proclamant que nous étions chrétiens. Et nous avons été un scandale, et nous avons amené sur nous la malédiction. Et nous sommes pillés, nous sommes pauvres, nous sommes délaissés. Nous as-tu abandonnés? Israël est sous le joug de Madian, d'Amalek et des Bédouins de l'Orient depuis 7 ans. Le pays est ravagé. Toute son économie est détruite. Ses envahisseurs avaient découvert, à cette époque-là, une machine de guerre terrible. C'est ce qui les rend supérieurs. Cette machine de guerre, c'est un animal, c'est le chameau. En notre temps, cela n'a pas beaucoup de signification. Mais au XIIe siècle avant Jésus-Christ, les chameaux donnèrent aux Madianites qui venaient du fond du Négev, près du golfe d'Aqaba, un avantage militaire énorme. Les chameaux étaient en ce temps-là de fantastiques machines de guerre, capables de marcher 3 à 4 jours, 300 à 400 kilomètres, sans eau ni nourriture, avec une lourde charge. On pouvait faire des attaques éclairs en masse, à l'époque où Israël n'avait que des troupes à pied. Ils se déplaçaient rapidement après avoir fait leur coup et leur pillage. Et ils disparaissaient, laissant le pays vide. pour revenir la nuit suivante au moment des récoltes. Israël est sans force devant un ennemi si nombreux, une coalition de trois nations, comme des sauterelles. La Bible nous dit qu'Israël a crié à son Dieu. N'est-ce pas ce que nous faisons au Congo? Nous crions à Dieu. Écoutez, l'une des grandes vérités de l'Écriture est que lorsque Dieu nous regarde, il ne nous regarde pas selon ce que nous sommes, mais selon ce que nous pouvons devenir si nous le laissons œuvrer dans nos vies. Si Dieu regardait selon ce que nous sommes, jamais il ne ferait rien avec personne, aucun d'entre nous. Mais il regarde au-delà. Il regarde à ce que nous pouvons devenir, si du moins nous le laissons œuvrer dans nos vies. Il est, mon Dieu, le Dieu de la restauration. Il prend des vies faibles, insignifiantes, et il les transforme. Il connaît nos faiblesses, il connaît nos manquements, il connaît nos découragements, il connaît nos fatigues, il connaît nos doutes, mais il ne demande pas comme condition que nous nous débarrassions de ces choses pour nous utiliser. Non. Mais il veut, il vient à nous dans nos faiblesses, dans nos manquements, avec la promesse de sa présence, laquelle va tout transformer. C'est ce que nous voyons dans la vie de Gédéon. Du reste, l'apôtre nous le dit bien dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 27 à 29. Que dit-il? Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Donc sache que si tu es un prédicateur, toi, Jacques Verneau, c'est qu'aux yeux de Dieu, tu es une chose folle. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Sache, Jacques Verneau, que si Dieu t'a appelé pour annoncer son évangile, c'est parce que tu es faible devant le monde. Il a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise. Sache que si Dieu t'a choisi, c'est parce qu'aux yeux du monde, tu es une chose vile et méprisable. Celles qui ne sont pas, tu n'es pas quelque chose par toi-même. Tu es rien, Jacques Verneau. Celles qui ne sont pas pour réduire à rien, celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Voilà. Sachez bien que tout ce que cet homme fait, tout ce que cet homme dit, ne vient pas de lui car il est incapable. Il est incapable. Tout cela vient de Dieu. C'est Dieu qui choisit l'homme qu'il veut pour un but qu'il veut pour sa gloire. Alors, toi, homme, garde-toi de te glorifier. Garde-toi de te bomber le torse. Garde-toi de faire connaître ta personnalité. Et si les gens t'élèvent, eh bien, pense en toi-même. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Je suis rien. C'est toi, Seigneur. Il est curieux de voir comme les hommes ont besoin d'idoles. Et combien de pasteurs deviennent des idoles pour ceux auxquels ils prêchent. Ah oui, pasteur, oh oui, pasteur. Comment, pasteur? Oh, attention, pasteur. Oh, etc. Oh, révérend, révérend, pasteur. Oh, révérend. Laissez-moi ça de côté. Laissez-moi. Vous n'avez pas besoin de nous idolâtrer, qui que vous soyez. N'idolâtrez pas l'homme. Si cet homme fait quelque chose de bien, glorifiez Dieu, car c'est Dieu qui le lui a donné. C'est Dieu qui le lui a donné. Notre capacité vient d'en haut. Les Israélites crièrent à l'Éternel. Mais écoutez-moi bien, nous crions à l'Éternel, pas vrai? Quel résultat? Depuis des années que je suis ici, tout le monde crie à l'Éternel. Quel résultat? Mais entre crier pour son secours ou de crier pour se repentir de son péché il y a deux choses bien différentes. Nous allons crier des jours et des jours, des nuits à l'Éternel pour que les choses aillent mieux. Mais combien peu nombreux sont ceux qui crient et pleurent pour se repentir devant le Dieu juste, vivant et vrai. À tout moment, j'entends des histoires de chrétiens qui n'ont rien compris. Rien compris. Qui cherchent à faire des alliances inacceptables. Qui cherchent à mélanger le profane et le saint. Qui cherchent à se débrouiller selon la pensée du monde. Qui sont devenus des profanes. Et qui chantent des cantiques et qui louent le Seigneur. Plusieurs fois dans les juges, nous voyons le peuple de Dieu crier pour son secours. Et immédiatement, Dieu, dans sa miséricorde, leur envoie un de ses serviteurs pour les délivrer. La délivrance vient toujours à travers un homme choisi par Dieu. Des hommes qualifiés par lui. Cette fois, Dieu leur envoie un prophète avec un message. Il n'a pas envoyé tout de suite un libérateur, mais un prophète avec un message venant de lui. Ils doivent connaître la raison de leur souffrance. Dieu leur rappelle ce qu'il a fait pour eux. Il leur rappelle comme il les a nourris. Libérés du joug de l'esclavage. Et que s'ils sont dans la misère aujourd'hui, s'ils sont dans la pauvreté, s'ils sont victimes des pillards, c'est à cause de la violation de l'alliance qu'il a contractée avec eux. Le Dieu unique, le Dieu tout-puissant, a contracté une alliance avec ce peuple qu'il s'est choisi, dont les pères ont cru dans le Dieu unique. Dieu leur rappelle ces choses-là. Il ne va pas les laisser à leur triste sort, car tel n'est pas son désir, mais il veut préparer un libérateur dans la personne d'un homme. Qui est cet homme? Un grand général d'une armée? Qui est cet homme? Un chef particulièrement charismatique d'un parti politique? Qui est cet homme? Un homme bien connu, avec des diplômes académiques mirobolants? Qui est cet homme? Un homme, gros homme d'affaires, beaucoup d'argent? Qui est cet homme? Cet homme, on n'en a jamais entendu parler, sauf maintenant, quand Dieu lui parle. Cet homme n'a pas besoin de la notoriété. Il n'a pas besoin d'un vote. Il n'a pas besoin d'une majorité. Cet homme, il a besoin seulement de l'appui du Dieu vivant qui souverainement l'a choisi. Il s'appelle Gédéon. Jamais, vous m'entendez, aucun d'entre nous, selon la logique de l'homme, nous n'aurions choisi Gédéon. Il n'avait pas l'étoffe d'un libérateur. Il n'avait pas l'étoffe d'un héros. Dieu se plaît à choisir les choses folles de ce monde, les choses qui ne sont pas, afin que nos chairs ne se glorifient devant lui. Gédéon est le fils de Joas, du camp d'Abiézer, de la tribu de Manassé. Voilà ce qu'il nous est dit. Avant cela, personne ne connaît Gédéon. Son père a des terres à Ophra. Ophra, c'est un lieu où la terre est très fertile et productive. Gédéon, nous a-t-il dit, battait le froment dans un pressoir, tenez-vous bien. Il a pu rassembler quelques gerbes de froment, de blé, qu'il est en train de battre avec un bâton dans un pressoir. Eh bien, sachez que rien n'est normal dans ce passage. Rien n'est normal. Je crois que nous comprenons ce qui est anormal. Parce que nous vivons dans l'anormal depuis combien d'années nous-mêmes? Nous vivons dans la débrouille. Dans la débrouille qui consiste la plupart du temps à magouiller ici, à magouiller là pour nourrir la famille. À user de toutes sortes d'expédients. On se débrouille. Pourquoi? Pour survivre. Dans ce récit, rien n'est normal. Le pressoir est le lieu où on foulait le raisin pour en extraire le jus. À cette époque-là, c'était une cuve taillée dans la pierre où un homme ou deux hommes foulaient le raisin avec les pieds en se tenant à une corde attachée au-dessus d'eux. Un trou était pratiqué au fond de la cuve pour que le jus s'écoule dans un récipient en contrebas. Mais Gédéon bat quelques gerbes de blé glanées ici et là qui restent après le pillage. Il le fait dans la cuve d'un pressoir avec un bâton. Ceci veut nous dire qu'il n'y avait pas beaucoup de blé à battre, car telle n'est pas la méthode. Vous savez que le blé se trouve le long d'une longue tige qu'on appelle la paille, et qu'à la tête, il y a des petits épis avec de multiples graines. Et pour détacher les graines de ces épis et séparer la paille de l'épi, on le battait. Et les pauvres qui n'avaient pas beaucoup, qui au moment de la vendange, de la moisson, pardon, qui glanaient dans les champs pour ramasser les tiges qui étaient restées sur le sol, et pour ramasser le blé qui restait au fond des champs où Dieu avait dit de ne pas couper, de laisser cela pour les pauvres prenaient cela et battaient ce blé, ce froment, avec des bâtons. Mais quand il y a une grande quantité, ce n'est pas ainsi qu'on le fait. Et là, Gédéon s'abaisse à le faire dans une cuve de pressoir, de raisin, avec un bâton. Ceci est normalement fait à l'aide d'un bœuf qui tire un genre de traîneau sur une surface préparée à l'avance pour cela, sur laquelle on répandait le blé à fouler, afin de séparer le grain de la paille. Du reste, Paul parle de cela et il dit, on n'emmuselle pas le bœuf qui foule le grain. Mais Gédéon doit se cacher. Gédéon n'a sûrement pas le moral, croyez-moi. Alors qu'il est au fond de la cuve et qu'il bat ses gerbes, il n'a pas le moral. Il ne le fait pas en chantant. Tout va mal. On n'arrive pas à se nourrir. Les pillards volent tout. L'amertume est dans son âme. Il voit tout en négatif. Le futur est sombre. Les projets sont incertains. Comment fonder une famille dans ces conditions-là? Comment éduquer ses enfants dans de telles conditions? Comment prévoir l'avenir, que faire, où aller, s'expatrier, mais comment? Le dépit, la rage le saisit et il frappe son blé avec force, avec rage, pour se libérer de ce qui pèse trop lourd sur son âme et sur son corps. Ce n'est que incertitude. Il est jeune. L'avenir est devant lui. Il y a à peine quelques jours, je voyais des jeunes gens qui passaient là. J'ai parlé avec eux. Et ils me disent, quel est l'avenir? Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. On ne nous laisse même pas descendre dans la rue pour crier, pour manifester. J'ai dit non, mon ami. Tu sais bien que dans ces foules, il y a des casseurs et il y a des destructeurs. Ce n'est pas la solution. Ce n'est pas ainsi qu'on va changer la situation. Il faut revenir à Dieu. Voilà la seule solution. Il faut crier à Dieu dans la repentance, pleurer devant lui, afin que tous, depuis le haut jusqu'en bas de l'échelle, reviennent à leur Créateur, se repentent, et que Dieu intervienne par quelqu'un, choisi par lui. Je ne croirai pas à l'homme qui va dire « c'est moi, j'ai les qualités, j'ai la connaissance, j'ai le savoir, c'est moi, je suis chrétien, votez pour moi ». Évitez ça. Évitez ça. Ce n'est pas avec la proclamation de son excellence qu'on peut arriver à quelque chose, mais c'est plutôt par l'exemple et l'appui du Dieu vivant. Gédéon est découragé. Je suis jeune. Quel est mon avenir? Je suis fort. Que faire? Comment élever mes enfants? Comment former une famille? Ici, dans notre pays, je suis catastrophé de voir à quel âge les jeunes gens se marient. 30 ans, 35 ans, 40 ans. Vous allez vous étonner pourquoi il y a tant de sida. Ces jeunes gens, est-ce qu'ils gardent leur corps pendant toutes ces années? Mieux vaut que tu te maries plutôt que tu brûles, c'est ce que dit la Bible. Combien peu nombreux qui se marient à 25, 22, 23, 23 ans? Combien? Pourquoi? Ah, on n'a pas l'argent. Ah oui, une femme, ça se paye malheureusement. Et quelle exploitation! Ça m'écœure! Ça m'écœure, entendez-le bien, vous tous qui écoutez à la radio et à la télévision. Au lieu que nous les aidions et que nous leur donnions ce dont ils ont besoin, du moins la base, nous prenons le peu qu'ils ont. Et encore, on fait plein d'histoires avec des listes comme ça, de bilocaux à acheter. Oui, Madian nous a volés, va Madian nous a pillés. Et nous sommes là à essayer de survivre en battant du blé dans la cuve. Une cuve qui sert à écraser le raisin. Ce n'est qu'incertitude. Que faire? Son père et sa famille ne sont pas si pauvres. Ils ont de bonnes terres. Nous le voyons plus loin, ils ont des serviteurs et des servantes. Mais si ça continue, il ne leur restera plus rien. Ce n'est que misère, ce n'est que peur, ce n'est que pauvreté assurée, ce n'est qu'une lutte sans joie pour la survie, rien de plus. Il y en a qui cherchent à n'importe quel moyen à sortir du pays, à changer de nationalité, à partir quelque part, qui cherchent à fuir ailleurs, à fuir ailleurs. Mon frère, non. Si Dieu te veut ici, reste ici. Tu as quelque chose à faire. Tu as un travail à accomplir. Tu as une tâche qu'il t'a confiée. Les rêves, nous en avons tous. Ne croyez-vous pas que moi j'ai aussi des rêves? Tout le monde en a. C'est bien, rêvez si vous voulez. Mais surtout, restez dans la volonté de Dieu. Car vos rêves, vous aurez le temps de les réaliser dans l'éternité. Dans l'éternité. Maintenant, il y a un travail à faire. Et ce travail, ce n'est pas de me faire plaisir. Ce travail consiste à faire plaisir à celui qui nous a appelés. Et ceci passe par le sacrifice. Sommes-nous prêts à sacrifier? C'est une lutte sans joie pour la survie, rien de plus. Je pense que nous pouvons comprendre les sentiments de son cœur. Alors Gédéon bat son blé. Alors qu'il bat son blé, peut-être en rouspétant, peut-être mécontent, je ne sais, un homme s'assoit là, près du pressoir, sous un arbre, et le regarde battre son blé. Gédéon le voit, il ne sait pas que c'est un ange. Il n'y avait rien de surnaturel à l'apparence de cet ange. Il n'a pas d'ailes, il n'a pas de halo, il ne sait pas, Gédéon, il ne sait pas à qui il parle. Il est dit dans le texte, l'ange de l'Éternel, c'est pas un ange, mais c'est l'ange, l'unique, un ange particulier, un ange unique. Une étude attentive de l'Ancien Testament nous révèle que là, il s'agit de Dieu lui-même, sous une forme humaine. Au verset 14, il est dit, l'Éternel se tourna vers lui et dit, Dieu lui-même est venu à Gédéon pour lui enseigner des vérités qui transformera sa vie et la vie des autres. Si Dieu transforme notre vie, ce n'est pas seulement pour notre bénéfice. C'est ça que nous devons savoir. Si Dieu transforme notre vie, c'est pour notre bénéfice et par extension pour le bénéfice des autres. Dieu ne va pas se révéler de cette façon à chaque individu. Non, mais Dieu va utiliser un homme auquel il va donner un message et il va donner une tâche à accomplir afin qu'il influence les autres. Cet homme est assis sous l'arbre. Il le salue en disant, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Ces paroles semblent ironiques. Ironiques à l'instant même où Gédéon est en train de battre dans un pressoir le peu de blé qu'il a. Il est loin d'avoir le comportement d'un héros. Il est là, furtif, effrayé par l'ennemi, battant ces quelques gerbes de blé dans un pressoir. Il n'a pas l'allure d'un héros. Il n'a pas l'uniforme. Il n'a pas les galons. Il n'a pas les diplômes. Il n'a pas fait d'école militaire. Mais c'est ce qui va devenir. Il va devenir un héros avec le secours du Dieu puissant en faveur de son peuple oppressé. Ce n'est pas seulement en faveur de Gédéon pour qu'il montre ses muscles, pour qu'il montre sa supériorité. Non! Non! C'est en faveur de ceux qui sont oppressés par Madian et Amalek. Mais Dieu cherche un homme qui se tienne à la brèche. Où va-t-il le trouver? Est-il prêt à tout sacrifier pour lui? Est-il prêt à abandonner ses avantages? Est-il prêt à se lancer dans le combat? Est-il prêt à être l'homme que Dieu veut qu'il soit? Est-il prêt à payer le prix? Combien de fois nous voyons que Dieu appelle, choisit des gens que nous n'aurions pas choisis? Combien d'exemples ne voyons-nous pas dans la parole de Dieu? Il choisit un homme comme Abraham, dont la femme est stérile, et il lui dit qu'il sera le père d'une nombreuse nation. Vous voyez les choix de Dieu? Il choisit un homme instable, impétueux, et il lui dit, tu es Simon, fils de Jonas, mais tu seras un homme solide, courageux, conquérant pour le royaume des cieux, un pilier de l'Église primitive. Et on pourrait allonger la liste. Ce que l'ange de l'Éternel disait en substance, c'est ceci. Gédéon, je sais qui tu es et je connais toutes tes peurs. Je connais les circonstances et les problèmes dans lesquels tu te trouves. Les problèmes du monde dans lequel tu vis. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce que tu es, mais ce que tu seras et deviendras. Car je suis avec toi pour accomplir une tâche. Les autres nous voient avec nos faiblesses. Oh Gédéon, c'est un lâche. Oh Gédéon, il n'a pas fait d'études en théologie. Oh Gédéon, il s'exprime même pas comme il faut. Gédéon, mais c'est un ouvrier agricole, quoi. Il travaille avec son père. Gédéon, qu'est-ce qu'il pourra faire de bien? Dieu choisit les choses qui ne sont pas. Dieu choisit les choses faibles. Dieu choisit les choses viles. Tu crois en ton excellence, eh bien, il y a des chances que Dieu te laisse de côté. Tu n'es pas conscient de ton incapacité, eh bien, il y a des chances que Dieu te laisse de côté. Il choisira quelqu'un d'autre. Les autres nous voient avec nos faiblesses, nos manquements, nos imperfections, mais Dieu voit en nous nos possibilités lorsqu'il peut travailler en nous et nous former pour faire de nous ce qu'il veut. Ce n'est pas ce que je veux, mais c'est ce qu'il veut. Le problème de Gédéon. Notre Dieu est un Dieu de grande patience, de grand amour. Gédéon a des problèmes de découragement, et ceci là-bas, et un sens d'incapacité, et de grande faiblesse l'envahit. Il doute que Dieu fasse quelque chose pour eux. L'ange dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur dans le sens monsieur. Du reste, le terme monsieur, c'est la contraction de mon Seigneur, si vous voulez. Ah monsieur. Ah, mon Seigneur, un petit S, ce n'est pas un grand S dans la Bible. Une formule de politesse, une formule de respect. Gédéon a senti que c'est quelqu'un de particulier, peut-être un prophète, peut-être un homme envoyé par Dieu. Je ne le connais pas, il y a quelque chose de différent. Il le sent, car de cet homme, il y a quelque chose. Quelque chose qui va jusqu'au cœur. Mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, si, question, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Si l'Éternel est avec nous, tout cela ne peut pas nous arriver. Et où sont tous ces prodiges que nos pères racontent quand ils disaient l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, regarde l'état, maintenant. Ça, c'est du passé. C'est bien beau. Mais maintenant, moi, je ne vis pas dans le passé. Autrefois, c'était comme ceci, comme cela. Dieu, nous avons vu des miracles, des prodiges autrefois. Mais maintenant, rien. Nous sommes esclaves de Madian, esclaves des pillards. Nous ne gagnons rien. Nous sommes dans la misère. Nous sommes obligés de glaner au bord des routes quelques petits argents pour pouvoir garder l'âme et le corps ensemble. Maintenant, l'Éternel nous a abandonnés. Où est l'Éternel dont on a parlé, dont on parle dans la Bible? Où est les promesses? Comment s'accomplissent les promesses? Nous sommes là, avec des salaires de misère, nous vivons sans espoir. Nos enfants n'étudient pas, il faut se battre, il faut souffrir. Pourquoi? L'Éternel nous a abandonnés. Elle nous a livrés entre les mains de Madian. Elle nous a livrés entre les mains des pillards. Voilà ce que Gédéon dit. Le découragement, le doute, l'ignorance, la défaite, l'abattement. Où sont les miracles du passé? Où est le Dieu de nos pères? Le Dieu des délivrances? On le prêche, on en parle, on le prie. Où sont les résultats de tout cela? Comment pouvons-nous chasser Madian et ces multitudes de pillards, ces multitudes de profiteurs qui nous mettent en esclavage? Jusqu'à quand serons-nous sous le joug? L'histoire de nos pères, c'est bien, mais c'est du passé. Nous a-t-il abandonnés, nous les enfants? C'est un aveu de défaite, de découragement, de désespoir. Il est clair que Gédéon n'a pas compris le pourquoi de la misère dans laquelle il est et dans laquelle la nation est. Il n'a pas compris le pourquoi de la misère. Ce n'est pas Dieu qui a abandonné son peuple, non! Ce n'est pas Dieu qui a abandonné le Congo, non! Mais c'est son peuple qui a abandonné son Dieu. C'est le Congo qui a abandonné Dieu. Elle lui a tourné le dos. Ah, mais non, nous prions. Ah, mais non, nous allons dans une église. Ah, mais non, nous sommes chrétiens. Ah, mais non, d'accord, mais vous avez fait et vous faites un mélange que Dieu n'accepte pas. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Entièrement à l'Éternel ton Dieu. Dieu est un Dieu jaloux, il ne veut pas nous partager. Vous voulez jouir de la jouissance de la chair, de la cupidité, de la magouille, de tous les expédients, quels qu'ils soient, et avoir quand même la bénédiction, vous acceptez de verser le sang de l'autre, peut-être pas directement, mais indirectement, vos mains sont sales du sang de vos frères, et en même temps vous dites, Dieu, délivre-nous, Dieu, donne-nous le dessus. Mais Dieu connaît plein de choses que moi je ne connais pas. Je ne connais pas. Je suis un homme tel que vous. Et on ne peut pas tromper Dieu, croyez-moi. Non, Gédéon n'a pas compris le pourquoi de leur misère. Dieu ne les a pas abandonnés, non, mais c'est eux qui ont abandonné Dieu. Il est bien plus facile de blâmer Dieu pour nos problèmes que de reconnaître nos fautes, nos péchés, notre infidélité, notre responsabilité. Car nous avons tous le libre choix. Il est dit au verset 14, l'Éternel se tourna vers lui. Il le regarda. Et dès ce moment, quelque chose se passa. Je ne sais quoi exactement, si à ce moment-là, Gédéon a pu discerner ce personnage et réalisa qui était son interlocuteur. Peut-être qu'il a senti une autorité différente, une autorité divine, quelque chose qui lui a traversé le cœur, l'âme, l'esprit, quelque chose qui a suscité en lui un espoir. Il ne sait pas exactement qui c'est, mais bientôt il le saura. Là, nous avons eu des nombreuses places de l'Ancien Testament où l'ange de l'Éternel est révélé être Dieu lui-même qui apparaît sous la forme humaine. Dans Jean 1, 18, il est dit, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Il est dit aussi que personne ne peut voir Dieu et vivre. Et l'ange de l'Éternel est le Seigneur Jésus-Christ qui prend forme humaine. Et il est actif dans l'Ancien Testament. Il est actif. L'ange de l'Éternel lui dit, va avec cette force que tu as et tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Il lui promet sa présence pour l'encourager. Quand il lui dit, va avec cette force que tu as, il ne dit pas à Gédéon, tu peux le faire par toi-même. Non, aller avec sa propre force était pour lui de se cacher dans un pressoir pour battre son blé. N'écoutez pas cela, c'est Satan qui veut nous distraire. Cette force que tu as est la force que Dieu donne quand il envoie quelqu'un pour accomplir une mission impossible. C'est la force qui vient de Dieu et qu'il donne à l'homme qu'il a appelé. Tu l'as cette force parce que moi je t'envoie. Dieu envoie, n'envoie jamais ses serviteurs sans les équiper. Il sait que nous ne valons pas plus que Gédéon. Il le sait que nous ne sommes pas plus capables que Gédéon. Dieu n'envoie jamais ses serviteurs sans les qualifier et leur donner l'équipement spirituel, moral, intellectuel. Oui, même si tu n'es pas allé à l'université, Dieu te donnera ce qui te manque si tu le cherches et que tu étudies sa parole, le livre de la connaissance par excellence. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Verset 16, « Je serai avec toi et tu battras Madian. » Voilà la force que Gédéon a et la force que nous avons. Notre Dieu est capable. Il n'est pas un Dieu de faillite ni de découragement. Baissons la tête, s'il vous plaît. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu. Lorsque tu nous appelles, tu nous qualifies. Et lorsque tu nous qualifies, nous comprendrons encore plus que rien ne vient de nous, mais tout vient de toi. Vas-tu trouver un homme qui se tienne à la brèche? Vas-tu trouver, Seigneur, ô mon Dieu, cet homme auquel tu ajouteras d'autres hommes, peut-être pas une masse, mais Seigneur, tu n'as pas besoin de beaucoup pour faire de grandes choses. Ô mon Dieu, aide-nous à comprendre tes exigences. Nous crions à toi, mais donne-nous de crier à toi pour la repentance. Dieu t'appelle ce matin, qui que tu sois. Ne veux-tu pas te repentir et mettre ta vie en règle devant Dieu? Veux-tu être utilisé par Dieu dans ton milieu, dans ton domaine où tu te trouves? Oh, je sais bien que ce matin, ce n'est pas l'ange de l'Éternel qui te parle, mais c'est un homme qui a été sauvé par grâce. Qui a été sauvé par grâce et que Dieu a appelé à une mission. C'est tout. Rien que cela. Je sais aussi que ces paroles ne viennent pas de cet homme. Oh non, car il est incapable par lui-même. Incapable. Mais ce message vient du Dieu de miséricorde et qui appelle aujourd'hui des Gédéons. Qui appelle aujourd'hui des hommes et des femmes qui chercheront à lui plaire et qui feront une différence dans la nation. Ô Jésus, je te prie, Seigneur, de toucher les cœurs. Peut-être tu as besoin de revenir à Dieu. Peut-être tu as besoin de t'humilier devant lui. Peut-être tu as besoin de demander pardon. Peut-être, je ne sais pas. Ou peut-être que tu es déjà un prédicateur, ou tu es déjà un ancien, ou que tu es déjà un membre de l'Église avec ta carte dans la poche. Mais certaines fois, nous avons encore besoin de nous humilier devant ce Dieu vivant afin qu'il puisse mieux, plus nous employer. Alors ne veux-tu pas t'exprimer en te levant maintenant? Lève-toi, je t'en prie. Lève-toi. Lève-toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je m'humilie devant toi. Je m'humilie. Je vois des faiblesses dans ma vie, dans mon ministère, des faiblesses dans ma marche avec toi, des manquements dans ce que je fais, Seigneur. Je vois, Seigneur, oh Dieu, je m'humilie devant toi. Nous avons besoin de pleurer devant lui, de nous humilier devant lui, frère, sœur, qui que tu sois. Qui que tu sois, tu sais que tu n'as pas été honnête dans ta gérance. Tu n'as pas été honnête en tant que directeur d'école. Tu n'as pas été honnête dans ton service à l'hôpital. Tu n'as pas été honnête dans tes rapports financiers et dans tes paroles. Tu étais malhonnête et tu étais un menteur parce que ces rapports, tu savais qu'ils étaient faux. Ne veux-tu pas te repentir? Crois-tu que Dieu ne la voit pas, même si les autres ne l'ont pas vu? Ne veux-tu pas te repentir maintenant? Lève-toi! Qu'attends-tu? Oh, mais j'avais besoin de cet argent. D'accord, tu avais besoin de cet argent. Dieu pouvait te le donner sans que tu voles et que tu détournes et que tu mentes pour cela. Lève-toi. Seigneur, je t'apporte ces hommes et ces femmes Seigneur mon Dieu, ils ont eu le courage de se lever alors qu'il y en a d'autres qui devraient se lever. Seigneur mon Dieu, tu connais les cœurs, rien n'est caché devant toi, mais tu honoreras celui qui a eu le courage de se lever maintenant, celui qui a eu le courage de s'humilier, Seigneur, car tu fais grâce à celui qui s'humilie et qui s'abaisse devant toi. Oui, tu fais grâce, Seigneur, mais tu ne fais pas grâce à celui qui endurcit son cœur et qui refuse de s'humilier. Tu élèves celui qui s'humilie devant toi, tu l'élèves, Seigneur. Oh Dieu, je t'en prie, dans le cœur des chrétiens qui sont ici, travaille, Seigneur. Nous voulons être plus purs, nous voulons être plus vrais, nous voulons être plus justes, nous voulons te représenter au milieu de ce monde, briller de ta lumière. Merci Jésus, reprenez vos places.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.